ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir, avec Jean-Claude Valravens, merci d'être venu. Vous êtes président de l'AGACIT, nous allons expliquer, c'est le travail de l'œcuménisme. Vous êtes président du pôle de l'Église protestante réformée et vous êtes chef de chœur. Nous allons évoquer le travail qui est fait par les églises chrétiennes sur Toulouse qui s'engagent dans l'œcuménisme pour l'Avent, pour la Semaine pour l'Unité. Mais avant, comme je demande à mes invités, dites-nous d'où vous êtes.
Très bien, merci de m'avoir invité. D'abord une précision, effectivement, je suis co-président du pôle Fédération protestante de France à Toulouse et chef de chœur depuis très longtemps, bénévole, chef de chœur amateur. Mon parcours de vie, c'est une enfance douloureuse, une éducation protestante réformée, et puis une formation musicale et une formation à la vie par le scoutisme, qui ont beaucoup contribué à m'apprendre à me battre et à lutter et pour mon parcours de vie, qui ont été formations qui ont été très précieuses, le scoutisme dans ma vie. Voilà. Et puis un échec à l'école normale d'instituteurs, à l'entrée à l'école normale d'instituteurs à 18 ans, à la suite de quoi je dis à mon papa, ben, je serai musicien puisque j'ai appris la musique, et il me répond, tu ne seras pas musicien, un musicien ne nourrit pas sa famille. Donc j'ai fait le choix d'une carrière à la poste, une carrière dans ce qui était à l'époque une administration, mais où je savais qu'en passant des concours tous les 3-4 ans et en acceptant les mobilités, on pouvait faire une belle carrière, ce qui m'est arrivé, puisque à la fin de ma carrière, je dirigeais 270 personnes. Et c'était donc un beau parcours professionnel, même si ce métier n'était pas ma vocation.
Des responsabilités, mais des convictions qui font qu'on s'accroche.
Tout à fait.
Alors cette carrière professionnelle, elle vous permet une grande mobilité géographique et un peu aussi une mobilité professionnelle puisque vous êtes monté, comme on dit, dans la hiérarchie. Sous le regard du Seigneur, sous le regard de Dieu, ma foi dans tout ça.
Disons que le combat pour monter en grade et réussir des concours à chaque étape, c'est un combat personnel, mais sous le regard de Dieu, oui, qui a aussi permis par ailleurs que j'ai une magnifique famille, puisque j'ai eu 4 enfants et j'ai aujourd'hui le plaisir d'avoir 4 petits-enfants. Et donc tout ce cheminement avec des mobilités, des mutations tous les 3-4 ans, chaque fois qu'on réussit un concours, il faut aller chercher un poste du nouveau niveau ailleurs. Eh bien, effectivement, ça m'a fait beaucoup barouder. Et donc, j'ai beaucoup voyagé aussi bien dans le milieu ecclésial que dans le milieu choral, parallèlement à mon évolution professionnelle.
C'est pas facile, il faut couper ses racines. Alors, est-ce que les lieux du culte, les temples, sont des points de repère dans ce cheminement, dans cette grande mobilité ?
Alors pour un protestant, les temples sont toujours des repères, pour un protestant en tout cas réformé, historique, c'est effectivement des repères, mais c'est la communauté qui fait repère, c'est pas le temple lui-même, c'est effectivement la rencontre et le partage avec une communauté de foi et d'espérance.
Là où on se retrouve pour prier, et là aussi où je crois chaque fois vous avez refait des chorales qui s'épuisaient un peu. Cette passion de la musique vous permettait à la fois peut-être d'animer certaines liturgies.
Alors, deux engagements. Un engagement effectivement dans l'Église où effectivement j'ai très vite été appelé à participer à l'animation liturgique de par ce charisme choral et aussi instrumental, mais aussi dans la cité surtout, parce que ce qu'on apprend du scoutisme, c'est d'être engagé dans la cité. Et donc les chorales que j'ai dirigées ont presque toujours été des chorales de la cité, des chorales de la laïcité, et dans lesquels on intègre des répertoires aussi bien populaires que contemporains, que religieux et sacrés.
D'ailleurs, l'année dernière, lors de la semaine pour l'unité des chrétiens, il y avait l'organisation de la chorale et nous avions présenté le travail que font les églises au niveau de l'œcuménisme. Et en même temps qu'il y avait des rencontres prêtres-pasteurs à l'évêché auprès ou avec Monseigneur Le Gall, il y a aussi des moments de communion qui sont ouverts, j'allais dire, au grand public.
Alors là, effectivement, vous venez d'entrer dans ce qu'on appelle la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui n'est pas qu'une semaine de prière, mais c'est aussi une semaine de témoignage et événementiel, dans laquelle il y a tout un contenu. En général, le lundi, il y a une soirée, effectivement, pour moitié conférence et pour moitié artistique, dans laquelle j'intègre un petit concert de chorale. Le mardi, il y a la rencontre prêtre, diacre, pasteur et aumônier. Le mercredi, il y a une rencontre avec une association écuménique en lien avec la Roumanie. Le jeudi, il y a en général un événement dans la journée à l'hôpital, au CHU à Purpan. Et le vendredi et le samedi, il y a souvent des rencontres avec la jeunesse ou bien un événement. Il y a eu un rallye l'année dernière. Et tout cela finit avec ce qu'on appelle la fête de l'unité, qui est une célébration écuménique.
Alors c'est là où vous intervenez comme coprésident de l'AGACIT. Mais déjà, on a mis le doigt sur tout l'effort que font les églises chrétiennes pour l'unité. Alors, il y a donc une association qui gère tout ce qui est administratif. Et vous venez d'être nommé comme coprésident. Précisez-nous, s'il vous plaît.
Oui, parce que le comité interconfessionnel est une association qui n'est pas formalisée, qui n'existe pas juridiquement. C'est une association de fait. Et elle a besoin, pour exister événementiellement et pour des raisons financières et administratives, d'un support qui soit officiel et juridiquement existant. Donc a été créée une association de gestion, d'administration et de représentation du comité interconfessionnel dont j'ai effectivement été élu président. Cette association donc permet, lorsqu'il y a des collectes de fonds lors d'une rencontre écuménique, lorsqu'il y a une offrande, eh bien de pouvoir faire rentrer cet argent dans les caisses de l'association et d'ensuite de pouvoir les rétrocéder en général à une œuvre humanitaire ou institutionnel qui n'est pas forcément le comité interconfessionnel lui-même. Il a quelques frais, le comité, mais il ne dépense pas beaucoup d'argent. Donc effectivement, quand il y a une collecte, il rétrocède à une œuvre, en général, l'argent de la collecte.
De même, la quête, lorsqu'il y a le Vendredi Saint, une célébration...
C'est la même chose pour le Vendredi Saint, pour la célébration de l'Avent. De toute façon, en général, la vocation du comité interconfessionnel que de croiser le chemin des œuvres. Le comité interconfessionnel rassemble les églises, mais il s'associe aussi des représentations des œuvres, des institutions, des mouvements qui ont toute leur place, comme l'ACAT, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, comme la communauté du chemin neuf. Les associations périphériques des églises ont toute leur place. La CIMAD actuellement ne siège pas, mais pourrait avoir une place. Voilà, ce sont des œuvres plutôt à dimension écuménique qui sont partenaires forcément du comité interconfessionnel.
Il faut aussi évoquer rapidement le local à Blagnac, dans l'aéroport, puisque c'est un lieu de culte, mais interreligieux, voilà. Alors, où les personnes peuvent se...
Alors notamment, effectivement, l'association, elle est chargée aussi de la représentation, et cela sert pour l'aéroport de Blagnac, où effectivement existe alors ce que longtemps on a appelé une chapelle, mais parce que la gestion en est confiée au comité interconfessionnel, mais dans la réalité, aujourd'hui, les portes en ont été ouvertes à toute sensibilité spirituelle qui souhaite se recueillir. Donc un passager en escale à Toulouse peut aller se recueillir dans ce qu'on appelle maintenant le centre spirituel de l'aéroport, dont effectivement la gestion et l'assurance sont confiées à l'AGACIT, donc l'association de gestion du comité interconfessionnel.
Alors c'est là où on passe de l'interconfessionnel à l'interculturel. et où la notion de laïcité est importante. Vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure et vous me disiez que vous êtes citoyen du monde.
Oui, tout à fait. C'est mon choix, effectivement, d'être engagé dans la cité, mais je ne suis pas le seul membre du comité interconfessionnel sur cette perspective. Le père Jean-Jacques Rouchy, comme moi, est engagé auprès d'instances tout à fait publiques, comme le Conseil de la laïcité de la ville de Toulouse, qui s'appelle Toulouse Fraternité, ou comme la conférence départementale de la laïcité et de la liberté religieuse, qui siège en préfecture, où nous croisons le chemin des directeurs régionaux des administrations, et où nous pouvons effectivement être appuyés pour créer des événements ou pour être présents dans des représentations protocolaires où notre présence groupée, collégiale, est souhaitable. Et ça permet de témoigner effectivement d'une bonne confraternité interreligieuse. Donc là, on est au-delà de l'écuménisme interchrétien. On atteint effectivement la dimension interreligieuse et on croise quelquefois le chemin même d'autres institutions de spiritualité qui ne sont pas forcément religieuses.
C'est pour ça que vous étiez, je crois, au cabinet du préfet ce matin et que vous alliez avec des personnes qui sont sensibilité ou de religion musulmane et des bouddhistes ou d'autres de toutes confessions.
Tout à fait, c'est pour préparer les semaines de la fraternité que, à cause de l'épidémie, nous avons été obligés de reporter à 2021. Mais c'est dans ce cadre que nous étions effectivement ensemble à la préfecture ce midi avec le père Jean-Jacques Rouchy qui représentait l'Église catholique, mais aussi avec le grand rabbin de Toulouse, avec le représentant, le porte-parole et premier vice-président du Conseil régional du culte musulman, le représentant de l'Église orthodoxe. Nous siégeons ensemble effectivement dans cette instance.
Dans votre qualité de chef de chœur, vous nous avez apporté une petite pause musicale et là, il s'agit d'une chorale que vous aviez animée en 2013 au Capitole.
Oui, alors, notamment dans la cité, je suis effectivement très engagé sur tout ce qui relève de la rencontre de culture. Et en 2013, je dirigeais la chorale populaire de Toulouse et j'ai croisé le chemin d'une chorale qui est devenue une chorale amie, qui est quasi professionnelle, qui s'appelle le Chœur de Chambre de Crimée. Et on a ensemble chanté un chant en slavon. Le slavon, c'est la langue liturgique orthodoxe, voilà, qui s'appelle Slavavichni Bogu.
Oh.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Ce soir, avec Jean-Claude Valravens, vous êtes co-président de l'ACACIT, qui gère le comité interconfessionnel de Toulouse. Vous nous avez apporté cette chorale et vous dites que chaque fois, dans vos responsabilités de chef de chœur, vous aimez associer la musique populaire et la musique sacrée.
Oui, dans les répertoires que j'anime et que j'intègre au travail des chorales que je dirige, il y a toujours une multitude de genres. Et effectivement, il y a autant de place pour la musique populaire, la musique de variété contemporaine, que pour la grande musique, ce qu'on appelle la grande musique classique, et puis la musique spirituelle, ce qu'on appelle musique sacrée. Voilà, c'est important pour moi de brasser ces répertoires parce qu'ils ont tous leur valeur et chaque participant à une chorale amateur a une sensibilité propre dans laquelle, comme ça, il peut, avec laquelle il peut trouver un chemin pour croiser cette discipline et croiser aussi des choses qu'il ne connaît pas, qu'il peut rencontrer. La rencontre est très importante pour moi dans le chant choral, comme dans l'Église d'ailleurs, et dans l'interreligieux et l'interconfessionnel. La rencontre avec d'autres chorales, y compris des chorales qui n'ont pas du tout le même niveau, comme une chorale professionnelle, tel le chœur de Crimée, que j'ai eu l'honneur et le plaisir d'inviter pour un concert, le temps d'un concert au Temple du Salin à Toulouse en 2013, effectivement, avec lequel on a pu se passer la baguette et puis partager des répertoires, et où j'ai eu l'honneur de diriger ce magnifique chant qu'on vient d'entendre, qui est un répertoire de la liturgie orthodoxe en langue slavon, donc la langue liturgique orthodoxe.
De différents peuples, de différentes nations, il faut chanter au même rythme, mais pas d'une même voix. Et pour ça, il y a un chef d'orchestre. C'est le symbole peut-être des églises qui ont une autorité ou qui se réfèrent à la même personne. La Bible, pour vous, c'est le texte de référence, un texte révélé.
Pour les protestants, c'est le texte révélé, c'est un texte de référence, c'est le texte de référence fondamental sur lequel on vient chercher... Toute réponse ou tout élément de réponse, qu'il soit formel ou symbolique. Et ceci permet aux chrétiens de faire son chemin. Protestant, d'ailleurs, ça veut dire pour la lecture des testaments. Pro, c'est pour, et testant, ça vient du mot testament. Les deux testaments, effectivement, sont le référencement principal et qui fait autorité dans l'éclairage du chrétien pour son cheminement, pour sa vie, pour ses engagements.
Oui, mais il faut l'interpréter. Or, nous savons que ceux qui lisent la Bible au premier degré, ils risquent de tomber dans une forme d'intégrisme ou bien ils oublient de situer les époques dans lesquelles la Bible a été écrite. Alors, c'est tout le travail des exégètes.
Alors,
ou de la prière en église.
Les gens qui lisent la Bible littéralement sont effectivement des personnes qui relèvent de l'intégrisme ou de sensibilité très
fondamentaliste.
Très fondamentale et effectivement fondamentaliste. Et je ne partage pas leur façon de la lire, mais je ne les juge absolument pas, car ce sont pleinement des croyants dans le même Seigneur que moi-même. Et donc je les respecte, ils sont en chemin, ils évoluent comme moi je chemine, comme moi j'évolue. Moi je n'ai pas cette approche-là, je considère qu'il m'est donné effectivement l'éclairage de l'esprit, il m'a été donné un cerveau et des muscles, donc une intelligence, c'est pour aussi réfléchir sur les textes de la Bible qui, rappelons-le, sont des textes écrits par des humains, mais inspirés par Dieu. C'est pour cela que les protestants leur donnent toute autorité dans l'éclairage de leur vie.
Il y a aussi des nuances et des divergences dans les interprétations que font les catholiques. Alors, le travail de l'œcuménisme, c'est justement de nous permettre, anglicans, différents courants de la Réforme, différentes tendances catholiques, et puis aussi les orthodoxes, de faire des actes, de poser des gestes symboliques qui disent que nous entrons dans l'avant Alors, nous allons poser des actes comme certaines journées de jeûne. Nous sommes en préparation.
Effectivement, nous sommes interpellés par le représentant orthodoxe dans le comité interconfessionnel pour une démarche événementielle autour d'un jeûne parallèlement à l'arrivée de l'Avent, donc ce temps particulier de la vie chrétienne. Et donc nous avons entendu cette interpellation et nous sommes en travail de réflexion pour voir comment la déployer cette idée sur le plan opérationnel et événementiel.
D'ici Noël, il y aura aussi sans doute Noël anglican comme l'année dernière, mais avec le coronavirus, ça reste encore pour l'instant en attente de préparation. Et puis, la semaine pour l'unité des chrétiens ne se fera pas de la même manière que l'année dernière, où c'était les groupes bibliques œcuméniques, les quatre groupes bibliques œcuméniques qui réfléchissent ensemble sur un même texte, qui animeront un petit moment de prière. Et nous donnons rendez-vous pour cette deuxième semaine de janvier. Mais les groupes bibliques œcuméniques, déjà, ont commencé cette année, après avoir travaillé 2 ans sur l'évangile de Jean. Cette année, ce sont les Actes des Apôtres et Madame la pasteur Emmanuelle Mouillon et nous aide dans ce travail de réflexion que nous essayons d'être collectif. Alors il y a une autre préparation également, c'est ce qui va être mis au niveau national à travers l'Institut supérieur d'études œcuméniques. Depuis 50 ans, il y a au niveau de l'Europe, à travers une démarche pédagogique, une réflexion passée sous l'égide du Conseil des Églises chrétiennes en France. Peut-être j'en dis deux mots.
Oui, c'est intéressant que vous puissiez le dire, parce qu'on va sans doute croiser ce chemin aussi avec le comité interconfessionnel sur le plan plus territorial.
3 facultés de théologie à Paris, la faculté catholique, l'Institut protestant de théologie et l'Institut Saint-Serge, vont proposer des cours ou bien des conférences. Et le thème, c'est la responsabilité ou les responsabilités chrétiennes dans la rupture écologique. Ce sera du 22 février au 24 février. Là encore, le comité interconfessionnel de Toulouse réfléchit à la manière de trouver un lieu, de trouver une équipe qui va porter ce projet qui est un projet national. Et c'est là où on a besoin effectivement de rencontres. Alors parfois ça se fait avec WhatsApp, avec Zoom, et il faut essayer de ruser contre le virus. Mais nous savons qu'il y a cette espérance qui nous habite, que la tunique du Christ est déchirée et que ce n'est pas nous qui allons la recoudre. Nous avons la croyance que l'Esprit-Saint nous appelle, comme au jour de la Pentecôte, à parler à travers nos langues diverses et nos interprétations d'histoire. Vous aviez peut-être pensé à rappeler ce chant qui nous rappelle l'ouverture à la transcendance.
Alors le chant que nous avons entendu effectivement est un chant de louange à la gloire de Dieu. Et effectivement, il dit textuellement donc « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange ». Autrement dit, si je ne suis pas dans l'attention à ce que le Seigneur voudrait que je puisse faire pour être utile dans le déploiement de ses commandements, eh bien, je ne suis rien. Donc, c'est le Seigneur lui-même qui ouvre mes lèvres. Et même dans la louange, c'est lui qui m'appelle, qui m'invite. Et je ne suis qu'une réponse pour lui.
Et si je n'ai pas la charité, je ne suis qu'une cymbale fêlée qui sonne faux. D'où cette ouverture des églises œcuméniques à ceux qui sont dans le besoin et ceux qui souffrent. Et le chant aussi nous rappelait que nous vivons pour la plus grande gloire de Dieu. Gloire à Dieu et paix aux hommes de bonne volonté et paix sur la terre.
Amen.
Merci Jean-Claude pour votre témoignage,
merci
pour votre
vous.
Engagement. Et à bientôt sans doute au moment de la semaine pour l'unité des chrétiens.
Merci à vous.